communication, je vais parler d'écrivains d'origine hongroise qui ont écrit au moins une partie de leur œuvre en français. Cette définition permet d'inclure une grande variété de cas de figure, des écrivains publiés en français occasionnellement, ceux qui ont rompu radicalement avec leur langue maternelle et ceux qui alternent les deux langues, etc. etc. Je les présente ici à l'occasion de ce colloque sur les relations franco-hongroises littéraires, car, comme le remarque Amel Malouf, les écrivains translingues ont pour vocation d'être des traits d'union, des passerelles, des médiateurs entre les diverses communautés, les diverses cultures. Donc, je souhaite offrir un panorama des écrivains franco-hongrois. Je mentionnerai beaucoup de noms et d'œuvres, mais faute de temps, je ne pourrai pas approfondir mes analyses. Je me demanderai uniquement pourquoi ces auteurs ont été choisis d'écrire en français. Pour classifier les différentes motivations, j'ai eu recours à des ouvrages théoriques sur la littérature translingue francophone et je me suis appuyée spécialement sur le livre d'Ambrosine Delbar, Les exilés du langage, un siècle d'écrivain français venu derrière de 2005. Mon étude fait partie d'un projet plus large que je voudrais réaliser. Depuis plusieurs années, je m'intéresse particulièrement aux écrivains franco-hongrois. J'ai notamment écrit ma thèse doctorale sur l'auteur franco-hongrois Kotari Moenar. Et dans la suite, je voudrais m'occuper d'autres auteurs, car à ma connaissance, il manque un ouvrage synthétisant l'œuvre de ces, enfin, une analyse des œuvres de tous ces écrivains. C'est vrai qu'il y a que Pal a publié une anthologie s'intitule La francophonie millénaire. C'est une anthologie de textes français écrits par des Hongrois avant le XXe siècle. Il a déjà réuni des textes du XXe siècle aussi. Donc il va publier le deuxième et le troisième volume l'année prochaine. Donc aujourd'hui, je voudrais présenter les résultats de mes recherches jusqu'à présent, qui sont sans doute à compléter avec d'autres noms et d'autres idées. Dans le cas des... Donc je passe à la classification. Dans le cas des auteurs franco-hongrois, ce sont bien sûr les bien connues circonstances historiques qui étaient les principales causes de l'exil et du changement de langue au XXe siècle. Premièrement, les guerres mondiales et après la dictature communiste. En effet, quelques ont quitté la Hongrie avant la Seconde Guerre mondiale, comme László Dormandy en 1938, ou à la fin de la guerre, comme Laurent Gaspard, qui a été déporté dans un camp en Allemagne, puis il était prisonnier de guerre en Alsace, ou comme Elie Wiesel, qui a survécu à des camps de concentration. Christine Arnotti aussi, elle a fui avec ses parents après la guerre, en 1948. Mais la majorité des écrivains sont partis après la révolution de 1956, comme Miklós Bátori, André Laurent, Pál Nagy, Ágota Krisztóf, György Ferdinándi, Tibor Pap, Ádám Bíró, etc. Et certains, d'autres auteurs ont fui le communisme un peu plus tard, comme Anna Novák, de Roumanie en fait, Eva Almasi, Kotali Molnár. Et le cas de Tibor Tardos est un peu particulier. Il s'est exilé en fait deux fois, premièrement en 1938 jusqu'à 1947, puis à partir de 1963. Peter Diener se distingue également des autres car il est né en France en 1930, mais il est retourné avec ses parents déjà en 1931 pour ne quitter la Hongrie qu'en 1956. Finalement, il y a des écrivains qui échappent en quelque sorte à ces classifications, comme Georges Walter qui émigra avec ses parents en 1923 quand il n'a que 2 ans, ou Yves Kaldor, né en 1951 de père hongrois et de mère française, qui part pour la France en 1956. Puis il vit en Belgique. Donc même si dans la plupart des cas, l'exil est dû aux mêmes raisons historico-politiques, probablement parfois en relation avec une motivation économique aussi, le changement de langue n'a pas été effectué de la même manière chez tous. Ce n'a certainement pas signifié la même chose pour tous. Pour comprendre nos relations avec le français et le hongrois, il faut tenir compte d'autres facteurs que je vais essayer de faire maintenant. dans ce qui suit, donc je vais essayer de définir des groupes dont les auteurs auraient des motivations similaires pour changer leur langue d'écriture. Et parfois, un auteur peut entrer dans plusieurs groupes, car bon, la décision de changer de langue d'écriture est une décision très complexe qui peut dépendre de plusieurs facteurs. Donc, j'ai établi 6 groupes pour l'instant. Le choix naturel, choix pratique, choix culturel littéraire, choix du hasard, choix psychologique et choix de la langue maternelle. Donc, le choix naturel, donc, il s'agit des écrivains qui ont choisi le français tout à fait naturellement car c'était leur véritable langue maternelle. Ce sont des enfants d'immigrés ou des enfants de couples mixtes, comme Georges Walter ou Yves Caldor. Mais bon, cela n'empêche qu'il ait aussi un attachement particulier à leurs origines hongroises. Georges Walter, cet attachement peut être apprécié chez eux surtout dans les thèmes qu'ils ont choisis pour leurs textes. Donc, par exemple, le premier roman de Georges Walter, célèbre journaliste en France, s'intitule « Les enfants d'Attila », qui s'inspire de l'histoire de son père exilé en France. Et dans ce roman, Walter écrit, je cite, « Je n'oubliais jamais que j'étais un immigré ». Donc, même si c'était un roman, mais en fait, il se définit comme une espèce de Hongrois dans ses mémoires, souvenir curieux d'une espèce de Hongrois, donc il n'est pas tout à fait Hongrois, mais les personnages et les sujets hongrois reviennent dans d'autres romans de l'auteur, dans Les Pleurs de Babel ou le règne de Magog. Et Yves Caldor, même s'il a perdu la langue hongroise, comme il le dit, réaffirme également ses multiples origines qu'il considère importantes pour son œuvre, comme on peut lire sur sa page web, donc il dit une obsession, les racines doubles, les liens, celles des autres, comment parler de ça, comment faire pour parler de ça. Et en fait, dans son premier roman, L'enfant de la Pusta, comme le titre le montre aussi, l'auteur retourne à ses origines hongroises. Passons au deuxième groupe, au choix pratique. Donc, l'écrivain exilé est coupé de son pays, de son milieu littéraire, parfois coupé même de sa langue maternelle. Donc, c'est peut-être plus difficile pour eux de continuer à écrire en hongrois que de changer de langue d'écriture. Donc, dans ce sens-là, tous choisissent le français pour une raison pratique, mais je vais mentionner ceux qui ont explicitement mentionné des raisons pratiques ou dont le parcours suggère ces motivations pratiques. Laszlo Dormandi est un des rares écrivains français qui a changé de langue et de pays après avoir écrit un nombre considérable d'œuvres dans son pays natal, dans sa langue maternelle. Il était un auteur reconnu. Et c'était, en fait, il avait déjà 40 ans quand il a quitté la Hongrie en 1938. Il était directeur puis propriétaire de la maison d'édition Panthéon. Donc c'est pour cette raison qu'il a vécu le changement de langue comme une contrainte extérieure, comme un événement négatif. Et il dit, je cite, azért írok franciául, mert az események szülőhazám elhagyására kényszerítettek, s választási lehetőségem csak kettő volt. Vagy alkalmazkodom a magam választott új haza felvételéhez, vagy elhallgatok. Comme beaucoup d'autres écrivains translingues, il est arrivé à l'écriture en français à travers la traduction, l'autotraduction. Il s'est rendu compte de la mauvaise qualité des traductions de ses œuvres, donc il a choisi de s'autotraduire, et ses traductions sont devenues de plus en plus des réécritures et des œuvres à part entière. Nous pourrions mentionner dans ce groupe les fondateurs de la revue Major Muhei, Pálnagy et Tibor Pop aussi. Comme nous le verrons plus tard, ils restaient attachés à la langue et la littérature hongroise. Et on ne peut pas dire vraiment qu'ils ont changé de langue d'écriture. Ils ont plutôt ajouté une autre langue à leur répertoire. Ils pouvaient choisir entre les deux, dépendant de la circonstance. Donc c'est ce que dit Pálnagy aussi, dit personnellement, je pense être écrivain, un poète, point. J'écris en français et j'écris en hongrois. Donc, ça dépend de la circonstance où il se trouve. Etc. Et selon Androsine Delbar, le changement de langue à cause d'une rencontre amoureuse pourrait appartenir aussi à ce groupe de choix pratiques. Et elle mentionne l'écrivain d'origine hongroise, Christina Monti, une auteure best-seller très célèbre en France. En effet, sa relation avec Claude Bélanger, une journaliste connue, était assez connue et scandaleuse. Mais cet amour n'a commencé qu'à la remise du prix Vérité qu'elle a reçu pour son roman « J'ai 15 ans et je me fais à mourir », inspiré des événements qu'elle avait vécu pendant et après la guerre, donc, et qu'elle a publié en français. Donc je pense personnellement qu'il faudrait plutôt, dans son cas, souligner que sa mère, d'origine polonaise, lui a appris le français comme première langue. Donc de ce point de vue, elle ferait partie plutôt du groupe des écrits hongrois dont la francophilie a été inculquée dès un très jeune âge. Et c'est déjà le troisième groupe, le choix littéraire et culturel. Donc aujourd'hui, on a déjà parlé du mythe de Paris. Donc effectivement, l'amour de la langue et de la culture française est une des motivations les plus importantes que les écrivains francophones mentionnent comme raison de changement. Et donc l'attrait de Paris, capitale de la vie littéraire, la langue française comme langue de la liberté, de la raison, de la clarté, etc. Ce sont déjà presque des clichés. En plus, s'agissant d'un grand écart entre la diffusion du français et du hongrois, dans notre cas, le choix du premier peut également assurer un public plus large et aussi différent. Donc les deux littératures ayant des histoires différentes. Comme toujours, quand on change de langue d'écriture, on change d'horizon d'attente aussi. Donc dans le cas des auteurs qui connaissaient le français depuis leur enfance, et à qui leurs parents ou leurs maîtres ont transmis l'amour de cette langue et de sa littérature, l'exil en France n'était pas un hasard. Nous avons mentionné le cas d'Arnotti, mais nous pouvons ajouter les noms de Laurent Gaspard, Anna Novak, André Laurent, et dans une certaine mesure Adam Bilou. Tout comme Arnotti, André Laurent, littéraire, un spécialiste de Balzac, qui a écrit un roman, et ses mémoires aussi, Le perroquet de Budapest. Il a appris le français, sa mère, donc il dit « L'amour de la langue française m'a été transmis par ma mère ». Adam Bilou, un éditeur connu, créateur de Bilou Éditeur, enfant, il ne parlait pas le français, mais avait cependant lui aussi une mère francophile qui pouvait aussi jouer un rôle dans son choix du pays et de langue. Dans ces cas, le français devient la vraie langue maternelle avec un attachement plus qu'intellectuel. Laurent l'appelle en fait sa langue véritablement maternelle qui lui aurait permis de renaître après son exil. En ce qui concerne Laurent Gaspard, il raconte que c'était son père qui a décidé que son fils de 6 ans apprenne le français et il a eu de la chance, dit-il, d'avoir des maîtres qui ont réussi à lui transmettre l'amour de la langue française. Et cet attachement lui a servi comme base pour le changement de langue qu'il a réalisé pour des raisons poétiques. Et il dit, même si au début il restait attaché au milieu hongrois, notamment il a fondé la revue Orwell Lehet, au bout de quelques temps il s'est rendu compte qu'il lui était nécessaire de changer de langue s'il voulait devenir poète. Donc il vivait dans un milieu français, il utilisait quotidiennement le français, et comme médecin aussi, il était étudiant de médecin et après médecin. Donc il devait changer de langue pour pouvoir devenir un poète de qualité, et il a réussi à devenir ce poète très, très connu et récompensé. Déjà avec son premier recueil, Le quatrième état de la laquière, il a gagné le prix Apollinaire en 1966. Anna Novak était également bilingue, comme Laurent Gaspard d'ailleurs, les deux étaient issus de Transylvanie. À 4 ans, elle parlait déjà 4 langues. Le français était le quatrième qu'elle connaissait le moins. Si elle a choisi cependant, c'est pour une histoire de grosse Adam, comme elle l'explique. Parce qu'à Auschwitz, où elle a passé plusieurs mois et qu'elle décrit dans son journal sorti des camps de concentration les beaux jours de ma jeunesse, même dans les Français, comme elle raconte dans cet extrait, les Français, même dans les conditions extrêmes, sont restés civilisés. C'est cette civilisation qu'elle a admirée et c'est pour cette raison qu'elle voulait y appartenir. Le cas des fondateurs de Modern New Help Analytic Approach que j'ai déjà mentionné est un peu différent parce qu'ils ne parlaient pas le français ou pas très bien avant d'émigrer en France. Mais je voulais les mentionner ici parce que ils pouvaient particulièrement bénéficier du changement d'horizon d'attente en écrivant en français, puisque comme ils le soulignaient à plusieurs reprises, l'avant-garde, donc ils écrivaient des œuvres avant-gardistes, des poèmes visuels, numériques, ils faisaient des performances. Donc, et comme ils disent, l'avant-garde n'avait pas vraiment de public hongrois, en Hongrie, qui est tout à fait différent en France, où l'avant-garde est une tradition, une histoire importante. Donc, même s'ils ne renonçaient pas à diffuser la littérature d'avant-garde en Hongrie, ils participaient activement dans la vie littéraire française aussi, ce qui montre la fondation d'une autre revue de langue française, cette fois-ci, ça dépend d'ateliers. Bon, finalement, je voudrais mentionner le cas d'Eva Almansi, qui s'est exilée en France à l'âge de 23 ans. Elle est connue comme une des papous de l'émission de France Culture, Les Papous dans la tête, mais elle a écrit plusieurs romans. Et bon, elle aussi, elle mentionne la grandeur de la langue française, peut-être un peu ironiquement. Et elle raconte qu'elle admire la littérature française, comme Proust par exemple. Mais elle ajoute aussi qu'en adoptant le français, elle veut neutraliser sa langue maternelle, trop proche, trop émotionnelle, écrit dans son texte paru dans le Manifeste de littérature monde. Bon, le quatrième groupe, le choix du hasard. Donc, si dans le groupe antérieur, certains écrivains étaient presque prédestinés à devenir des écrivains français, il y a d'autres qui ont mis en relief leur détachement, leur non-choix. Et c'est le cas d'Agota Christophe, auteur suisse romand d'origine hongroise, devenu très célèbre grâce à sa trilogie des jumeaux, qui écrit, enfin, qui a dit dans une interview, c'est tout à fait par hasard que nous sommes allés en Suisse. Et si on était arrivé en Suisse alémanique, j'écrirais maintenant en allemand, naturellement. Ce non-choix du français s'oppose clairement à la mythologie de la langue française de Paris capitale, de la culture française, enfin du monde, perpétuée par d'autres écrivains bilingues. Et tout comme Christophe, quant à Lee Moenaar, une auteure proche de Mordiant Muhei, aussi une auteure avant-gardiste, insiste sur le rôle du hasard dans son choix du français. À l'âge de 14 ans, au lycée, elle voulait étudier l'anglais à cause des Beatles, mais puisqu'il y avait trop d'élèves dans ses sections, le directeur lui a imposé le français. Donc, même si elle est devenue étudiante en philologie française et elle est partie pour Paris avec une bourse, elle a accentué son indifférence envers la grandeur de la langue française. Et peut-être cela lui a permis d'expérimenter, innover le langage plus librement. D'accord. J'ai encore deux groupes, mais le choix psychologique, les événements historiques de la première moitié du XXe siècle ont laissé des trajets, des blessures, surtout chez les écrivains d'origine juive. Donc le rôle que les Hongrois jouaient dans la déportation des Juifs a donné comme résultat chez eux le refus de la mère patrie. Donc l'adoption d'une nouvelle langue d'écriture leur a pu signifier de se débarrasser du poids de la langue maternelle et d'exprimer plus vivement les traumas. Donc, c'était le cas d'André Laurent, qui dit que la réalité de là-bas, de la Hongrie, ne l'est comprise qu'ici, en France, et je ne peux formuler qu'en France et la charge affective dont sont investis les événements majeurs de mes années de jeunesse. Je ne vais pas m'étendre. Je voulais mentionner Lévis, elle aussi écrivait américain d'origine hongroise, mais qui a passé également une dizaine d'années en France et a écrit en français. Il a connu de ses récits des camps concentrationnaires. Donc il a aussi choisi, il a abandonné la langue hongroise parce que les Hongrois s'étaient montrés tellement cruels envers les Juifs. Et Anna Novak, bon, j'ai déjà mentionné son nom, donc elle a évidemment vu des atrocités à Auschwitz. Et elle dit aussi, peut-être ai-je choisi d'écrire en français la seule de mes langues qui n'était pas été encore en vertu de cette arrogance vis-à-vis de mon destin. Et le dernier groupe, le choix de la langue maternelle. Donc je voulais garder un espace pour les écrivains qui marquent le rituel en français, ont accentué leur attachement à la langue et à la culture hongroise. Donc on a déjà mentionné les fondateurs de la revue Magyar Műhely, qui optait pour le polyglottisme et l'identité double. Je ne vais pas m'y attendre. Et je voulais aussi mentionner le nom de Jörg Ferdinandi, qui est aussi un exilé de 1956 et qui est resté attaché aux Hongrois, malgré le fait qu'il a non seulement publié en français, mais suite à son déplacement au Puerto Rico en espagnol aussi. Donc, en conclusion, même si le cadre de cet exposé ne m'a pas permis de m'étendre sur l'œuvre de chacun, cette classification, je pense, montre très bien que l'exil politique qui a le point commun de tous les écrivains mentionnés peut être vécu de manière très distincte et par conséquent, le rapport aux langues, aussi bien hongrois qu'au français, peut également varier. Donc, on a vu d'exemples très différents, d'auteurs très différents, et on peut sûrement en discuter d'autres, peut-être vous pouvez aussi m'aider à trouver d'autres auteurs. Mais une chose les caractérise tous, l'autoréflexion et la réflexion sur l'exil et le changement de langue. Il décrit volontiers dans des mémoires ou d'autres autobiographies les événements qui les ont menés à changer de pays et de langue et les conséquences qui en découlaient. Il reste donc à analyser les manifestations du translinguisme chez eux, et non seulement sur le plan de l'énoncé, c'est-à-dire de ce qu'ils disent, mais aussi sur le plan de l'énonciation, autrement dit de comment ils le disent. Mais cela fera partie, comme j'ai dit au début de mon intervention, de travail plus étendu que je souhaite réaliser. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you.